Les enjeux internationaux. Thierry Garcin.
Bonjour Thierry Garcin.
Et bonjour Émilie Chauvel.
Aujourd'hui donc, on revient sur le résultat du scrutin en Autriche qui a eu lieu hier.
Voilà, donc avec la victoire du candidat écologiste Alexander Van der Bellen, pardon pour la prononciation. Alors en ligne, Patrick Moreau, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez publié récemment à la Fondation pour l'innovation politique l'Autriche des populistes. Vous êtes spécialiste de ces questions-là. C'est un document assez très riche, très documenté, très lisible aussi, plus que fouillé, et qui donne évidemment le paysage partisan et politique de l'Autriche. Alors, 53% donc pour le candidat. On va s'expliquer pourquoi pour le candidat écologiste, comme on dit. Les résultats du scrutin de la présidence de mai dernier avait été annulé par le Conseil constitutionnel pour irrégularité. Le candidat écologiste était arrivé en tête, mais n'avait emporté que de près de 31 000 voix sur son rival d'extrême droite, Norbert Hofer. Alors, que représente d'ailleurs, on va le dire tout de suite, la fonction présidentielle? Quel a été, si l'on le sait, le taux d'abstention? Comment les autres partis se sont positionnés par rapport à l'élection? Il y a évidemment beaucoup de questions à vous poser, Patrick Moreau. Alors, juste d'un mot, est-ce que c'est une surprise ce résultat très affirmé quand même, 53 sur 47.
Oui, enfin c'est une divine surprise. Je dirais effectivement, dans les sondages que nous avions quelques jours avant l'élection, Norbert Hofer faisait la course en tête. Alors, dans les deux derniers jours, dans les trois derniers jours, la situation s'est un petit peu dégradée pour Hofer. D'abord, le débat qui a eu lieu avec Van der Bellen à la télévision s'est mal passé pour lui. Il s'est trouvé attaqué sur la question de la peine de mort. On lui a reproché d'avoir été partisan de la peine de mort, qu'il a évidemment rejeté après, mais le mal était fait. Troisièmement, il y avait une mobilisation, je dirais, sociale importante, par exemple un appel des maires à voter Van der Bellen. Alors, trois groupes sociaux nous posaient problème. Enfin, trois grands groupes nous posaient problème. Le premier, c'était celui de la qualité de la mobilisation de la social-démocratie. Est-ce que les électeurs sociaux-démocrates qui n'aiment pas vraiment Van der Bellen allaient effectivement voter pour lui, c'est-à-dire choisir en définitive une option la moins pire, si vous voulez? La deuxième, qui était beaucoup plus importante, c'était le positionnement, je dirais, des conservateurs, qui était divisé à peu près 50-50, tout au moins dans les sondages, pour et contre Van der Bellen. Et le troisième groupe qui nous inquiétait le plus, c'était celui du comportement des personnes de plus de 60 ans, essentiellement des retraités. Et car il y a eu un très gros effort de la part du FPE pour gagner cette couche sociale. Et en définitive, tout ça s'est très bien passé. Les reports de gauche ont été forts. Les retraités ont voté à 60%, enfin 58%, pour Van der Bellen, et les conservateurs, eux aussi, ont préféré de très très loin Van der Bellen et ont donc empêché Hofer d'imposer ce régime présidentialiste.
Alors juste d'un mot, Patrick Moreau, je rappelle donc que vous êtes chercheur au CNRS, au Laboratoire Dynamique Européenne de l'Université de Strasbourg. Est-ce qu'on sait quelque chose du taux d'abstention?
Oui, le taux d'abstention est relativement faible. Si vous voulez, la mobilisation s'est faite, mais bon, c'est pas un grand retour en politique. Je dirais que les camps étaient à peu près fixés. Même si la victoire de Van der Bellen est incontestable, il n'y a pas eu de déplacement généralisé très fort en sa faveur. C'est simplement, bon, les camps étaient à peu près fixés, les changements sont quand même assez faibles.
Juste d'un mot pour la fonction présidentielle, Patrick Moreau, c'est, on dit, une fonction honorifique, symbolique, un peu sur le modèle allemand d'ailleurs. Vous êtes d'accord avec ces adjectifs?
Absolument pas. C'est d'ailleurs très important pour l'avenir du FPE. La constitution de 1920, revue dans sa version de 1929, donne des pouvoirs importants au président de la République. En particulier, le pouvoir de nomination et le pouvoir de renvoi. C'est-à-dire que le président de la République peut renvoyer le chancelier en place, renvoyer le gouvernement, donc provoquer en définitive des élections législatives, et il peut nommer le chancelier qu'il veut. C'était la stratégie de Strache, pratiquement arrivée au pouvoir à travers, un coup d'État à froid de la part d'Hofer, et ensuite il aurait cherché des partenaires de coalition, parce que le FPE n'est pas majoritaire en Autriche, même si c'est de loin le premier parti politique dans les sondages.
Les thèmes de campagne, est-ce que cela a été également de cette nouvelle campagne, donc est-ce que cela a été aussi la question des migrants?
Ah oui, oui, bien sûr. C'est une des questions centrales, mais le principal, enfin un des éléments les plus importants, ça a été la question de l'identité autrichienne, si vous voulez, qui s'est posée. Il y a une double conjonction. Il y a en Autriche, comme dans la plupart des pays européens, deux dimensions. C'est la problématique de la globalisation, le danger que représente la globalisation pour un certain nombre de gens. Et deuxièmement, la question identitaire. Les perdants de la modernisation vont en général voter pour des partis nationaux populistes, mais ça ne suffit pas, si vous voulez, pour assurer un offer à 47%. Il faut que s'y ajoute un deuxième groupe, qui est celui des gagnants de la modernisation, qui sont en fait motivés par la perte d'identité ou la peur de la perte d'identité corrélée à l'immigration. Donc c'est l'élément central qui, en fait, soude les deux blocs.
Et ça renvoie directement dans ce cas-là à l'histoire de l'Autriche, à l'histoire au XXe siècle.
Ah ben, de toute façon, oui, parce que le SPÖ est un parti qui est profondément enraciné dans son histoire, c'est-à-dire que le SPÖ est dirigé par un groupe, par une espèce d'élite politique nationale allemande, dont la pensée politique remonte à 1840, c'est-à-dire vraiment dans les racines du 19e siècle, mais qui a donné différents épisodes politiques comme le NSDAP, par exemple.
Oui, avec des avatars, et vous l'expliquez d'ailleurs, dès les années 50-60, ces racines sont très profondes.
Ah oui, elles sont constantes. Toute la direction du parti, sans exception, que ce soit Hofer, Strache ou les conseillers de Strache, sont tous des gens qui sont issus du même milieu. C'est ce milieu national allemand, et c'est très intéressant parce que ce milieu national allemand, a une idéologie, ce qu'on appelle du Grand Reich. C'est-à-dire que pour eux, tous les Allemands doivent se retrouver dans le contexte d'un nouvel État-nation rassemblant tous les gens qui parlent allemand.
Monde germanique.
Le monde germanique, absolument. C'est un pan-germanisme tout à fait classique. Mais le discours officiel du FPE est en fait un discours nationaliste. Il n'y a plus de vision grande allemande. Alors il y a un double discours, il y a un discours officiel qui fonctionne très bien, qui est celui du nationalisme ou du retour aux racines. Et d'un autre côté, au sein de l'appareil, vous avez des gens qui pensent en des dimensions totalement différentes.
D'accord. Alors il y a une chose, peut-être dernière chose qui est intéressante, puisqu'on a peu parlé de cet autre pan du paysage électoral, c'est-à-dire les conservateurs et puis les sociaux-démocrates. Est-ce qu'ils font un peu leur examen de conscience? Parce qu'ils ont dirigé donc en coalition souvent le pays pendant des décennies. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils avaient complètement fossilisé le système. Et il y a eu, semble-t-il, un vote anti-système, comme dans d'autres pays, lors de du précédent scrutin.
Tout à fait. C'est la grande tragédie autrichienne, mais elle est visible un petit peu partout, c'est la déperdition idéologique des partis démocratiques. C'est totalement évident. Le VOP, enfin les conservateurs, ont commencé en 2015 à refondre leur programme. Le programme de la social-démocratie est en train d'être refondé, et j'entendais hier à Vienne, fondamentalement, il va y avoir un grand retard idéologique. Donc, sur ce plan, il faut voir que l'offre du FPE est une offre très construite sur le plan idéologique.
Oui, vous le dites, qui répond à des attentes.
Face, oui. Comme il n'y a rien en face, les gens trouvent effectivement dans les positions du FPE un certain nombre de repères et d'orientations. Et c'est ce qui fait leur force.
Il faudra y revenir sur tout cela. En tout cas, merci de cet éclairage à chaud, Patrick Moreau. Je rappelle que vous êtes chercheur au CNRS, donc au Laboratoire Dynamiques Européennes de l'Université de Strasbourg, franceculture.fr, pour écouter l'émission, pour la télécharger.
Merci Thierry Garcin. Et demain, la question que vous poserez justement, ce sera quelle perspective pour la réélection possible d'Angela Merkel?
Oui, on reste, si j'ose dire, dans le quartier, dans l'Europe centrale, donc l'Allemagne, avec le congrès du Parti conservateur, et évidemment la perspective d'une réélection ou non de Madame Merkel l'année prochaine. Et notre invité sera Enrico Tarveda.